Salut tout le monde, au programme du volume 6 de Rétrovision, il y aura Laser Cutlery 7 sur PC, Double Dragon sur Master System, Kick Off 2 sur ST, Ikari Warrior sur Arcade, Star Strike sur Intellivision, Moonstone sur Amiga, Magician Lord sur Neo Geo et la démo Amiga signée du groupe K-Friends intitulée Desert Dreams. Bienvenue dans le volume 6 de Rétrovision. Super content de vous retrouver une nouvelle fois, toujours sur Rétrovision, l'émission 100% rétro gaming au sens large du terme, où l'on sent bien le goût du fruit. On commence par une belle croisière ensoleillée avec le dragueur le plus célèbre du monde des jeux vidéo, Monsieur Larry Laffaire, dans sa 7e aventure intitulée Love for Sale ou Drague en haute mer pour la version française.
Oh, mais qu'est-ce que c'est ?
Le 7e opus était sorti en 1996. Le personnage a bien changé point de vue des graphismes, mais nullement niveau tenue vestimentaire.
Aïe, je déteste me couper avec du papier.
Sautez ! Sautez !
Ok, ça vient !
Ah, si on m'avait donné 10 balles chaque fois qu'on a dit ça, hein ?
Vous l'aurez compris, Larry Laffaire est l'anti-héros par excellence, aussi séduisant qu'une borne à incendie, à l'allure très kitsch, légèrement ringard sur les bords, mais rien n'y fait, Larry se prend pour un Casanova, croyant séduire toutes les femmes qu'il croise. Et c'est à nous de faire en sorte, en le contrôlant dans ses aventures, de faire tomber le maximum de jolies filles à ses pieds. En plus, Monsieur Laffaire ne choisit pas les plus moches. La tâche pourrait sembler difficile, mais pourtant...
Si, je parie, tu relèves le défi ?
J'ai un mauvais pressentiment, mais... au diable. Voyons voir.
C'est bien ma veine.
Dans ce 7e épisode, Larry, qui est dégoûté de la vie, décide de se payer une croisière luxueuse. Et pour amuser les passagers masculins, un concours y est organisé. Et le grand gagnant aura l'honneur de passer une nuit avec la capitaine du navire, Mademoiselle Bellecuisse. Il faudra bien entendu user d'astuces et de tricheries pour remporter toutes les épreuves. Ce point and click est tout ce qu'il y a de plus classique, mais le point fort du jeu vient de ses graphismes, de la bande-son et surtout de son humour, toujours aussi drôle au fil des épisodes.
J'ai bien dû y rester une heure.
Larry Laffaire, votre score est... 2.
Les graphismes ont un style très cartoon, on dirait presque un dessin animé interactif. Les couleurs sont claires et ensoleillées. Le jeu grouille de détails et les décors animés sont souvent interactifs. Les musiques, dans un style jazzy et easy listening, sont super agréables et relaxantes. On prend un réel plaisir à se balader sur le bateau accompagné de ces douces mélodies. Les petits numéros que vous voyez en bas à droite de l'écran là correspondent à une grille Scratch and Sniff que l'on pourrait traduire par gratte et sent. Cette grille était fournie avec le jeu. En grattant la case correspondante aux chiffres, vous sentirez l'odeur que dégagent certains lieux, histoire de donner encore plus de réalisme. Attention cependant à la case numéro 5, déconseillée aux narines sensibles.
Cette sauce aux haricots est vraiment efficace.
Leicester Suit Larry 7 est l'un des meilleurs de la série, malgré le fait qu'il se démarque énormément des autres avec son style dessin animé. Mais l'ambiance du jeu est intacte, on se laisse complètement emporter dans cette croisière de rêve. Et voici Double Dragon sur Master System, qui est l'adaptation du cultissime jeu d'arcade sorti vers la fin des années 80. Avec un scénario tout ce qu'il y a de plus classique, vous deviez combattre la bande des Black Warriors et délivrer Marie-Anne, la petite amie de Billy. La conversion sur Master System est assez médiocre techniquement, seulement 5,5 différents sans compter les boss de fin de niveau. Une durée de vie ultra courte avec 4 niveaux, mais surtout un désagréable effet de clignotement lorsque les sprites se superposent, ce qui donne des combats plus que confus. Il est tout de même possible de combiner 8 coups différents et d'utiliser certains objets pour attaquer, comme par exemple des caisses, barils, fouets, pierres, dynamite, couteaux et même des battes de baseball. Malgré ses défauts, et pour les plus nostalgiques, Double Dragon reste un bon petit beat'em all. Si vous arrivez à la fin du jeu en mode deux joueurs, les deux héros devront s'affronter dans un duel sans merci pour les beaux yeux de Marie-Anne, ce qui lui donne un petit côté personnel bien sympa, un jeu à redécouvrir. Voici un grand jeu auquel tout le monde a dû jouer au début des années 90, le célèbre Kick Off 2, dont voici la version sur Atari ST. Cette simulation de foot rencontra un énorme succès malgré une réalisation technique, disons, un peu bizarre. La première chose à laquelle il faudra s'accoutumer, c'est de courir tout en gardant le ballon. En effet, celui-ci ne colle pas au pied, ce qui rend la maniabilité difficile. C'est aussi tout un exploit pour réussir à marquer un but, mais quand on y arrive, croyez-moi, on est vraiment super content. Après quelques jours, voire des semaines d'entraînement, il vous sera possible d'effectuer des dizaines de coups, comme des passes, tirs puissants, brossés, tête, tacle, retourné, et même des ailes de pigeon tant qu'on y est. Et tout ça avec un seul bouton. Les options sont nombreuses dans Kick Off 2, cela permet de briser la monotonie des matchs. Parmi les plus intéressantes, le fait de choisir un type de terrain, mettre du vent, de jouer à 4 en même temps, la sensibilité des arbitres ou la sauvegarde de vos plus jolis buts. « Côté graphisme, c'est assez basique. S'il n'y avait pas les maillots des joueurs, on pourrait croire que le jeu est monochrome. Et si vous avez le malheur de jouer contre une équipe qui a les mêmes codes de couleurs que vous, bon courage. Véritable briseur de joystick, dû à sa technicité, Kick Off 2 est un jeu qui en a énervé plus d'un. Mais il laissa un formidable souvenir lorsque l'on invitait des copains pour se taper une partie de foot le samedi après-midi. Ikari Warrior, borne d'arcade mondialement connue, est un jeu d'action de type run and gun développé par SNK en 1986. Le joueur incarne un soldat brutalement lâché dans une jungle hostile après un atterrissage tout en douceur. Armé d'une mitrailleuse et de quelques grenades, votre but sera d'aller le plus loin possible en évitant de se faire canarder, peu importe le nombre d'ennemis abattus. Pour vous aider dans votre avancée, vous pouvez piloter des chars d'assaut bien plus pratiques pour dégommer tout ce qui bouge, attention cependant aux tirs des tanks ennemis, aux grenades ou aux pannes d'essence. Le gameplay possède une petite particularité. Les manettes de la borne permettent en effet de faire pivoter votre personnage sur lui-même, afin de tirer dans une même direction unique, quel que soit le déplacement. Ikari Warrior était un jeu bien réalisé, avec de bonnes idées comme les tanks, les power-up et la rotation du personnage. Mais la lassitude commence quand même à nous emparer après 30 minutes de progression dans cette jungle immense et surpeuplée d'ennemis. Mais bon, on ne pouvait pas trop en demander plus, surtout en 1986. Excellent jeu quand même. Boom! Star Trek, datant de 1980, fut clairement inspiré de la bataille contre l'étoile de la mort dans la guerre des étoiles. Dans ce jeu plutôt bien réalisé, vous pilotez un vaisseau spatial dans des tranchées ennemies. Votre mission, détruire la station extraterrestre avant que la Terre ne passe directement au milieu de l'écran. Le but du jeu consiste à éviter les vaisseaux ennemis tout en lâchant des bombes dans les cibles rouges avant que la Terre ne se situe au centre de la rampe de lancement. Sinon, le missile se lance et détruit, comme il se doit, notre bonne vieille planète. Premier jeu violent et gore chroniqué dans Rétrovision, Moonstone sur Amiga, sorti en 1991, est un savoureux mélange entre jeu d'action, RPG, beat them all avec gestion du personnage. Pour résumer le scénario, les quatre chevaliers se lancent dans une quête périlleuse pour retrouver quatre clés et une pierre de lune. La première phase de la partie prend place sur une carte bien détaillée où vous déplacez votre chevalier au tour par tour à la recherche des fameuses clés. Il faudra absolument les trouver avant les trois autres. Durant cette chasse au trésor, plusieurs endroits plus ou moins stratégiques seront à visiter, comme les villages, temples, armureries, tavernes, etc. Et voici la deuxième phase, où vous devez combattre tous vos ennemis à la manière d'un beat them all. Les programmeurs n'y sont pas allés avec le dos de la cuillère, car c'est avec une grande dose d'hémoglobine que vous pourfendrez de l'or et tout un tas d'autres créatures. Le côté gore peut être désactivé pour les âmes sensibles, mais cela fait perdre un peu de charme au jeu quand même. Avec un seul bouton d'action, votre chevalier peut effectuer 8 actions différentes, de la parade au coup d'épée en passant par le lancer de couteau. Le graphisme était fort impressionnant à sa sortie en 91. Les sprites sont énormes et l'action est fluide. Un gros effort a été fait sur le design des monstres ainsi que sur les scènes animées qui nous plongeaient direct dans cette atmosphère pesante. Dans Moonstone, la musique est plutôt discrète, mais comme dans la plupart des jeux Amiga de ce style, elle dégage une ambiance obscure, inquiétante et mélodieuse à la fois. N'ayons pas peur des mots, Moonstone est un grand jeu avec de bons gros graphismes colorés, des décors héroïques fantasy de grande classe, des bruitages de bonne facture qui rendent les parties captivantes. Mais surtout, c'est un jeu que l'on refait toujours avec le même plaisir. Les parties ne sont jamais les mêmes, car tout dépend quel chemin vous allez prendre. Il est bien évidemment possible de jouer jusqu'à 4 en même temps. Et ayant déjà eu l'opportunité de faire une partie à 3 joueurs, ce mode multi m'a laissé un souvenir inoubliable. Et c'était, à l'époque, chacun pour sa peau, à grands coups d'épée qu'il fallait trouver les 4 clés. Un jeu que l'on peut refaire encore aujourd'hui. Nouvelle sélection flipper dans Rétrovision, et on commence avec une table intitulée Funhouse datant de 1990, qui reprend magnifiquement le thème des parcs d'attractions américains. L'un des principaux objectifs est d'envoyer la boule dans la bouche du pantin en bois. Chose que vous ne verrez pas à l'écran, car je n'ai pas réussi à le faire, sûrement lors d'une prochaine partie. Mais je vous laisse quand même admirer cette table. Quit talking and start chalking. Q-Ball, un flipper datant de 1992, pas mal distribué dans les cafés, reprenant le thème du billard américain. Vous deviez aller frapper la grosse boule noire afin qu'elle ricoche sur différentes cibles. Q-Ball est une table basique, avec très peu de rampes, qui privilégie la stratégie et l'habilité au tir avec les flips. Eh oui, il en faut aussi pour tous les goûts. Ah voilà un flipper bien vintage datant de la fin des années 70, 1978 pour être précis. On y jouerait presque pour les magnifiques dessins qui ne passent sans rappeler les comics books de l'époque. Pas grand chose à faire sur cette table, il fallait juste abattre toutes les cibles pour marquer un maximum de points. Mais il était quand même agréable de jouer dans un bistrot tout en sentant en même temps une odeur de café très agréable. Voilà une table où il valait mieux avoir le pied marin, reprenant le célèbre vieux loup de mer où vous deviez mettre KO la grosse brute de Brutus afin de délivrer Olive, la fiancée de Popeye. D'ailleurs Popeye, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Ce flipper aux couleurs chatoyantes donnait envie de claquer quelques parties et l'objectif principal était d'envoyer la boule au niveau supérieur afin de marquer, comme dans tous les flippers, le plus de points et ainsi épater tous les amis. Magician Lord, édité par Alpha, est considéré comme l'un des premiers jeux sur Neo Geo. Petite merveille technologique, il a marqué un grand nombre de joueurs par sa réalisation exceptionnelle qui mettait la Neo Geo très loin devant la Mega Drive et la Super Nintendo. Vous incarnez Elta le magicien et vous devez retrouver les 8 livres de magie volée éparpillés à travers les 8 niveaux du jeu. La principale faculté de votre personnage est de se transformer en un nouveau guerrier en collectionnant les orbes de différentes couleurs suivant leur combinaison. Dans ce jeu de plateforme action, seuls deux boutons seront utilisés, le A pour tirer et B pour sauter. Les niveaux sont assez longs et vous permettent de prendre différentes portes, rendant la progression moins linéaire. Chose assez rare sur Neo Geo, on reprend le niveau exactement au même endroit après la perte d'une vie, même après un continu, ce qui casse nettement le dynamisme des parties et rend la progression extrêmement difficile. Graphiquement, la Neo Geo nous donne un aperçu de ce qu'elle a dans le ventre. Et les effets spéciaux en mettent plein la vue. Les décors sont vraiment dépouillés et réalisés avec soin. Musicalement, on pourrait parler de symphonie. Dommage que la perte d'une vie interrompt la mélodie qui colle super bien à cette ambiance obscure et inquiétante. Comme pour la plupart des cartouches Neo Geo, Magician Lord est une grosse bombe où l'on ne s'ennuie jamais. L'action est permanente, mais il est dommage que la difficulté soit aussi grande. Le NEC plus Ultra aurait été que le héros dispose d'une barre d'énergie plus grande, mais le jeu ne perd pas de son intérêt pour autant. Et en parlant de NEC, justement, le prochain Rétrovision sera un hors-série, le deuxième pour ceux qui suivent les sorties dans l'ordre chronologique, et il sera consacré à la PC Engine de NEC, ou NEC, ou Nippon Electronic Corporation, comme vous voulez. D'ici là, portez-vous bien, et place à la démo Amiga, il s'agit de Desert Dream, disquette 2, j'aime bien dire disquette, et c'est signé du groupe K-Friends. Bonne démo, et à bientôt sur Rétrovision. We'll be right back.
We'll be right back.